Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h59. Très belle journée à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Cette canicule donc qui arrive, vous allez voir que c'est déjà la deuxième de l'année et que déjà il y a des mesures annoncées pour faire face à ces fortes chaleurs. L'image du jour, assurément, ce sera ce soir le dîner Trump-Macron au château de Versailles. Emmanuel Macron, vous allez l'entendre, qui imagine déjà la France en finale de la Coupe du Monde après la victoire des Bleus hier soir 3-1 contre le Sénégal.
Et on va donc avoir des pics à 40 degrés en fin de semaine.
Oui, ça recommence. Trois semaines après la première canicule, on se dirige tout droit donc vers une deuxième canicule, avant même le début de l'été, ce qui est complètement inédit. Ce matin, vous l'avez entendu, il y a déjà la moitié de la France qui est en vigilance jaune. Et c'est que le début, puisqu'on va avoir au moins 5 nuits étouffantes, on vient de le dire, 5 nuits d'affilée, sans redescendre sous les 20 degrés. L'enfer, tout simplement, dans les villes comme ici à Paris. Écoutez avec Amine Lafcha.
Jeudi 34 degrés.
Les prévisions météo sur son téléphone.
Samedi 32 degrés.
Zoé fait grise mine.
Ça veut dire très peu de sommeil en perspective, disons. Moi, je vis sous une mezzanine, donc c'est assez compliqué. On se réveille la nuit, on a du mal à s'endormir.
Dès ce soir, dans de nombreux départements, les températures la nuit ne descendront pas en dessous des 20 degrés. De quoi angoisser Claire, qui craint de voir son appartement chauffer encore plus que lors de la dernière vague de chaleur fin mai.
La dernière canicule s'est montée à 29.
Alors, pour se rafraîchir la nuit, la retraitée a une astuce.
Je prends des pains de glace, vous savez, pour les glacières. Je les mets dans des gants de toilette. Et je les garde à côté de moi.
Des petites combines que Myriam connaît bien, elle qui vit dans un appartement qu'elle compare à un four.
On est en plein centre de Paris, donc il fait très chaud. Plus la chaleur des voitures qui passent sur les quais continuellement, c'est insupportable.
Heureusement pour elle, son mari lui a fait la surprise il y a 2 jours d'acheter une clim portative.
J'espère qu'on va passer une meilleure nuit dans les jours à venir.
Tout est déjà installé et Myriam l'assure, à la première goutte de sueur, elle n'hésitera pas à l'activer.
Alors il y a déjà tout un tas de conséquences. La SNCF par exemple supprime une vingtaine de trains. Les corails les plus anciens demain et vendredi sur ces lignes Paris-Clermont, Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille aussi pour éviter des pannes. La ville de Paris autorise dès aujourd'hui la baignade dans le canal Saint-Martin. C'était prévu en juillet, c'est avancé donc à cet après-midi dans une zone qui sera délimitée et surveillée. Et les oraux du bac qui commencent lundi prochain pourront être reportés en cas de forte chaleur. C'est ce que dit déjà le ministre de l'Éducation. À propos des écoles, tiens ce matin, la situation se tend de plus en plus. On en a la preuve avec les parents d'élèves. Il y a 8 directeurs d'école sur 10 qui disent avoir eu à gérer un différend avec des familles durant l'année là, qui vient de s'écouler. C'est 2 fois plus qu'en 2013. Date de la dernière enquête sur le sujet, nous explique Bérangère Bouquillon. Écoutez la chef du service société RMC.
Contestation de punition, de notes. Pierre est directeur d'une école primaire de 400 élèves dans le sud de la France. Et s'il rappelle que seule une minorité de parents pose problème, il avoue que chaque semaine, il se retrouve face à des parents virulents.
Mon enfant n'a rien fait, il m'a raconté 7 versions et il cite des textes de loi incriminants. Vous n'avez pas le droit d'écrire ça, vous n'avez pas le droit de faire une sanction. Le ton peut monter très très vite. Il nous est arrivé de devoir appeler la police le matin, dès 8h30 devant le portail.
Appeler la police, c'est aussi ce qu'a dû faire Marie, directrice en Île-de-France, lors d'un rendez-vous qu'elle avait demandé aux parents d'un élève.
La mère est arrivée dans mon bureau, hors d'elle. Moi, je voulais une coopération et elle me menaçait de porter plainte.
Et de plus en plus de parents menacent de partir dans le privé, comme l'a vécu Stéphanie, directrice, à cause d'un élève au comportement violent pour lequel elle n'a trouvé aucune solution adaptée.
On est seul, on n'a pas tellement de volant d'action. Les parents l'ont compris et du coup, c'est une vraie faille pour nous. Directeur.
L'étude révèle également que les enseignantes sont moins respectées par les parents que leurs collègues masculins.
C'est aujourd'hui que s'achève le sommet du G7 à Évian. Il sera question de l'intelligence artificielle pour cette dernière journée. Avant le rendez-vous très attendu ce soir, Thomas Becker du service politique RMC, Emmanuel Macron et Donald Trump donc vont dîner ensemble au château de Versailles. Ce sera l'occasion pour eux deux de célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine à laquelle la France a participé, mais même si l'idée n'est pas d'en faire un dîner de gala.
Oui, ce soir, il y aura quand même le tapis rouge, les dorures et le faste de la Galerie des Glaces, mais c'est un dîner de travail, explique sobrement l'Élysée. Emmanuel Macron a surtout utilisé Versailles comme un appât pour faire rester Donald Trump en France jusqu'à la fin du G7, stratégie payante auprès d'un président américain amateur de dorures.
Versailles, ce n'est pas du plaqué or, c'est du lourd. Alors oui, j'ai dit que j'y participerais.
Un dîner qui intervient après un G7 tendu par moments entre Emmanuel Macron et Donald Trump, pas encore arrivé sur le sol français. français. Le président américain menaçait la France de taxes sur les vins. Ensuite, le président français n'a pas accueilli son homologue sur le tapis rouge, comme le prévoyait pourtant le protocole. Ce soir, Donald Trump repartira directement après le dîner. Il ne dormira pas en France. Je serai vite rentré à la Maison Blanche, a-t-il promis aux Américains.
Et puis notez que mon invité à 8h30, ce sera la présidente de l'Assemblée nationale, troisième personnage de l'État, Yaël Braun-Pivet. Rendez-vous à 8h30 sur RMC et BFM TV.
On parlait d'Emmanuel Macron, il imagine déjà les Bleus en finale de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors les Bleus, là au moment où on se parle, sont de retour alors que j'ai de Boston ce matin où un match amical contre une équipe locale est prévu aujourd'hui pour les remplaçants qui ne jouaient pas hier soir à New York lors de la victoire 3-1 contre le Sénégal. Avec les félicitations donc d'Emmanuel Macron, écoutez le message qu'il a publié dans la nuit.
C'est un bon début de Coupe du Monde et j'espère être là, je sais que je serai là, le 19 juillet prochain pour la finale.
Voilà, il imagine déjà la France en finale de la Coupe du Monde, Emmanuel Macron. Bon, peut-être qu'il s'emporte un petit peu, peut-être qu'il a vu lui aussi le doublé hier soir de Kylian Mbappé qui a détrôné Olivier Giroud pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec désormais 58 buts au compteur.
Je suis très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. J'ai toujours placé ça au-dessus de tout. Maintenant, on sait pourquoi on est là. Je pense que j'aurai le temps de penser à ce genre de choses plus tard quand j'arrêterai de jouer. Là, je sais pourquoi je suis là pour aider l'équipe, pour continuer avec mes coéquipiers. On va continuer à essayer d'écrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France. Et on sait que le chemin, il sera très long, mais comme j'ai dit, on est prêt.
Alors le prochain match pour Kylian Mbappé et l'équipe de France, ce sera lundi prochain contre l'Irak qui a été lourdement battu 4-1 cette nuit par la Norvège avec un doublé de Erling Haaland. Les stars répondent présents pour l'instant. Lionel Messi lui a inscrit un triplé cette nuit lors de la victoire 3-0 de l'Argentine contre l'Algérie. Jérôme Sillon, c'est vous qui avez commenté ce match pour RMC cette nuit donc à Kansas City. Vous êtes en direct avec nous ce matin. Lionel Messi est encore un petit peu plus entré dans l'histoire.
Ouais, la planète foot avait les yeux rivés sur Kansas City pour découvrir le dernier tango de l'octuple ballon d'or. Dans le stade, une clameur folle est montée des 70 000 supporters, presque tous aux couleurs de l'Argentine, à l'annonce du nom de Léo Messi. À bientôt 39 ans, Messi a dansé avec les défenseurs de l'équipe d'Algérie. 3 buts, dont 2 d'anthologie. Un récital émouvant aux yeux de Juan Pablo Sorin, l'ancien défenseur argentin du PSG.
Quand les personnes m'ont parlé que Léo est fini, Léo continue à briller, à illuminer.
Voilà Messi à 16 buts en Coupe du Monde, record de l'Allemand Miroslav Klose égalé, mais l'humilité de la Pulga l'invite à relativiser.
C'est un honneur de me retrouver aux côtés de Klose et d'autres grands, Ronaldo, Kylian Mbappé qui en a marqué 2 aujourd'hui. Mais je pense que cela ne signifie rien au final. Ce n'est qu'une statistique et rien de plus.
Et si le record de but tombait dès le prochain match contre l'Autriche, le record de la 6e Coupe du Monde s'est déjà fait. Le dernier tango de Messi pourrait bien finir en conte de fées.
On l'espère, on suivra ça. En tout cas, Jérôme Sillon en direct donc depuis les États-Unis pour RMC. C'était sous les yeux de Zinedine Zidane. Tiens, cette nuit, il était à Kansas City pour assister à la défaite de son fils Lucas, gardien de but pour l'Algérie. Alors dans ce même groupe, il y a l'Autriche et la Jordanie qui sont en train de jouer, c'est en train de se terminer en ce moment. C'est l'Autriche qui mène 3-1. On est au bout du temps réglementaire et l'Autriche vient à l'instant de mettre un penalty. Le programme du jour, je vous le donne parce qu'il est très sympa et on verra ça évidemment sur RMC Radio officielle. On verra Cristiano Ronaldo avec le Portugal, 19h, ça va jouer à Houston contre la République démocratique du Congo. Puis à 22h, un petit peu plus tard, donc à Dallas, il y aura l'Angleterre, le Harry Kane contre la Croatie de Luka Modric. 40 ans, il dispute la Coupe du Monde.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h08, c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec vous Emmanuel Le Chypre. Emmanuel, la croissance pourrait être 2 fois plus faible que ne l'espérait le gouvernement cette année.
Oui, c'est un véritable séisme que ces nouvelles prévisions de la Banque de France, parce qu'il est rarissime qu'une grande institution révise avec autant d'ampleur ses perspectives. Elle s'attend dorénavant à une croissance de 0,5% pour le PIB en 2026. C'est quasiment donc 2 fois moins que les 0,9% qu'elle prévoyait en mars.
Qui était déjà pas flambant.
Non, et qui reste pour l'instant la prévision officielle sur laquelle repose le budget 2026. Après une baisse de l'activité au premier trimestre, le deuxième s'annonce aussi très faible, nous dit la Banque de France, tant sur le plan de la consommation que de l'investissement. financement des entreprises. Il n'est donc pas exclu que la France enregistre un recul du PIB au printemps. Et vous savez ce que ça veut dire, le recul du PIB deux trimestres de suite? Eh bien, c'est ce mot qui fait toujours peur. C'est
la récession.
Exactement. C'est ce qui risque de se passer. Alors, autre mauvaise nouvelle en plus, l'inflation qui, elle, est de son côté revue à la hausse, puisqu'elle n'atteindrait plus 1,7% comme prévu en mars, mais 2,5%.
Alors, on peut espérer que la deuxième partie de l'année soit meilleure avec la baisse du pétrole ou pas?
Alors, j'aimerais, Apolline, sauf que dans la prévision de la Banque de France, le scénario qui est retenu, c'est précisément un scénario qui repose sur un accord de paix rapide et sur un recul aussi rapide des prix du pétrole. La réalité, malheureusement, c'est que la France profitera moins de la réouverture du détroit d'Ormuz parce qu'elle a une moindre exposition au commerce mondial que les pays très exportateurs comme l'Allemagne. Que la France, vous savez, c'est ce qu'on appelle le pays édredon. C'est le pays qui connaît des chocs moins forts et des reprises moins fortes à cause de tous les dispositifs sociaux que nous connaissions.
Quand on chute, on se fait moins mal.
Voilà.
Mais attention, on a plus de mal aussi à remonter.
Exactement.
Si mes vieux cours d'économie sont toujours à jour.
Il faut dire, ils datent d'il n'y a pas longtemps, Apolline.
Oh,
c'est très récent.
C'est flatteur.
Voilà. Et puis il y a l'attentisme de la présidentielle qui est un véritable poison. Les perspectives des patrons de PME sont au plus bas depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est vous dire. Résultat, un chômage en hausse et des déficits publics qui ne vont quasiment pas diminuer cette année.
Tout ça, c'est franchement pas des bonnes nouvelles. Alors regardons quand même du côté des chiffres, les chiffres du jour comme chaque jour.
Mais là, les nouvelles sont meilleures.
Bon.
Le gazole, 1,97€ le litre. On était à 2,02€ à la veille du week-end, donc ça baisse bien. Le samplon 95, on est sur un seuil de résistance. 1,94€, c'est quasiment stable depuis quelques jours. Le pétrole, 77,2$. Le baril, on était à 90 en fin de semaine dernière, ça baisse bien. Et le gaz, moins 20% en une semaine. On est passé de 50 à 40€ le mégawattheure. Donc plutôt des bonnes nouvelles.
Merci Emmanuel, 8h11.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous sur RMC, il est 8h11. Dans un instant, c'est Arnaud Demange qui revient pour nous faire rire. À 8h30, ce sera le face-à-face. Mon invité, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Comment réussir à sortir du fiasco après l'affaire Liana? Et je vous le révélerai dans un instant, il y a eu encore des désastres, des choses absolument incompréhensibles dans des signalements qui ne sont jamais parvenus dans cette affaire Liana et d'autres enfants qui ont parlé sans que ça n'ait la moindre conséquence. Je poserai évidemment la question Yaël Braun-Pivet. Pour elle, c'est une question de moyens de la justice. La présidente de l'Assemblée nationale qui est donc mon invitée à 8h30. Juste après, il y aura le choix de la rédaction. Augmenter le prix de l'eau pendant l'été, c'est la stratégie de certaines communes face aux sécheresses. Et puis, on a un petit résultat là du foot vous donner.
San Francisco, c'est terminé. L'Autriche a battu la Jordanie 3-1 dans le groupe J, le groupe de l'Argentine qui a battu l'Algérie cette nuit.
On vous informe en temps réel, évidemment, sur RMC. 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et c'est tous les jours qu'il est avec nous. Arnaud Demange, bonjour Arnaud.
Bonjour Apolline.
Bonjour Mathieu,
bonjour
Élise. Et bonjour à Lou, notre stagiaire de seconde. T'es contente d'être là?
Parce que je lui ai dit que j'avais moins de 25 ans.
Bah oui, ça m'a traumatisé. Alors
il
t'aimes bien la radio?
Parce que c'est un boomer.
Tu veux en faire ton métier plus tard?
J'adore.
Alors très heureux tous de vous retrouver au petit matin, au réveil. Apo, votre coq est réveillé. Je rappelle que pour encourager les Bleus, Apolline a adopté un coq. Il gueule fort et il parade. Du coup, elle l'a appelé Jean-Jacques. Et Apo était devant sa télé hier soir. Allez, Kylian! Oh là là, pourquoi il est sur le banc, Lucas Hernandez? Il a morflé en plus, alors que c'était Didier Deschamps. Et au final, les Bleus ont battu les Lions de la Teranga. C'est le surnom des Sénégalais. Enfin, c'est le surnom des Sénégalais au Sénégal, oui. Parce qu'en France, on les appelle les joueurs de Ligue 2. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire Teranga?
Oui, c'est l'accueil.
Oui, c'est l'hospitalité,
oh là
exactement.
Là, wow.
C'est les lions de l'hospitalité. C'est
d'accord,
chouette. Hein.
D'accord.
C'est chouette, mais ça casse un peu le message du lion, en fait,
oui.
Je trouve. Ça, c'est un peu les tyrannosaures accueillants, les requins serviables. C'est dommage. Alors, on a regardé le match avec tout RMC. Mauvaise première mi-temps, le Sénégal nous a posé des problèmes. Du coup, Estelle Denis, elle était stressée. Elle a mis son téléphone en mode avion, des fois que Didier Deschamps veuille la demander en mariage. Et finalement, 3-1, Cocorico. Ah, merci Jean-Jacques.
Merci Jean-Jacques.
Merci Jean-Jacques.
En ce moment, c'est le G7.
Oui, alors là, on risque pas d'avoir le Sénégal qui nous met des bâtons dans les roues. C'est le G7 d'Évian. Pardon, c'est le G7 à Évian. Oui. Parce que le G7 d'Évian, ça sonne bizarre.
Ça va pas.
Ce serait un G7 sur toutes les déviances des chefs d'État. Il y aurait Trump en slip en latex, avec des pinces croco sur les tétons et une cagoule en cuir.
Mais je crois que c'est
face,
ça.
Face au Premier ministre allemand.
Mais on sait pas, c'est à huis clos.
On sait pas, hein. On sait pas. Mais il serait face au Premier ministre allemand en train de dire, oh yeah, insulte-moi en allemand. Ja, ich werde dich der Arsche ficken. J'espère qu'il n'y a pas d'enfant allemand qui nous écoute.
Je sais pas ce que ça veut dire, je préfère pas savoir.
Moi, je sais ce que ça veut dire. Et ensuite, il y aurait le couple Macron en pleine activité BDSM. Encore! Et après, ils ont forcé Mélanie à manger une pizza à l'ananas.
Bon, oh
enfin, bon bref, le G7 déviant, c'est pas ça, c'est juste qu'il est à Évian.
Voilà.
On a parlé évidemment de la paix en Iran. A priori, c'est signé vendredi. Emmanuel Macron a dit qu'il était même prêt à lever les sanctions françaises contre l'Iran. Ce à quoi l'Iran a répondu, ah bon? Il y avait des sanctions françaises contre nous. On n'a rien remarqué. Et après, le président a aussi expliqué que le porte-avions Charles de Gaulle pourrait être déployé dans les 2-3 jours. Donc, après l'accord de paix. Hein, voilà. La guerre est finie. Bon, alors cette fois, on veut bien vous envoyer notre porte-avions. Là, au moins, c'est pas dangereux. Faites-y gaffe quand même. On n'a pas fini de le payer. On n'en a qu'un. Et il prend l'eau.
Éric Ciotti est furieux contre le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui l'aurait traité de nabo. Et il aurait même déclaré, je cite, « Je vais te faire disparaître en t'envoyant des Géorgiens ».
Voilà, beaucoup d'informations dans le même lancement, Apolline. Je vous propose qu'on fasse le tri, hein, qu'on fasse un peu le unboxing de tout ça.
Les unes après les autres.
Premier point. Le ministre des Transports s'appelle Philippe Tabarot.
Oui, c'est vrai, voilà, c'est une information.
Bon, admettons. Deuxième point, Philippe Tabarot n'aime pas Éric Ciotti, donc il l'aurait traité de nabo publiquement, ce qui n'est pas gentil. Hein. C'est pas faux, mais c'est pas gentil. Et apparemment, alors je me suis renseigné, la brouille entre les deux hommes a démarré au sujet des transports de supporters de l'OGC Nice. Oui. Et c'est vrai que c'était pas cool de transporter de malheureux niçois innocents pour voir un match de cette équipe de daube. Alors ça a dégénéré lors d'une visite d'Emmanuel Macron à Nice en plus, qui a dû engueuler son ministre en lui disant « Mais pourquoi tu t'en prends à ce pauvre enfant qui a une chimio en plus ? Mais je ne suis pas un enfant ! Je suis le maire de Nice. Et maintenant, on en est à « Je vais t'envoyer des Géorgiens pour te faire disparaître. » Et alors, pourquoi des Géorgiens ?
Ben oui, excellente question ça, Arnaud.
Pour faire disparaître Éric Ciotti, il y a quand même plus simple. Un grand chapeau, par exemple.
Oui.
Une pelouse mal entretenue. Même Éric Antoine, il te fait disparaître Éric Ciotti très facilement pendant son spectacle. Et ça fait même pas partie du show. Il a juste à l'installer dans le public et hop, on le voit plus. En tout cas, on se demandait comment amadouer Trump ce soir au château de Versailles. Ben voilà. Est-ce qu'on n'organiserait pas un combat de MMA entre Éric Ciotti et Philippe Tabarot en slip brillant, là, avec des masques de lutteurs mexicains
et des
Géorgiens dans une cage. Et après, on leur fait faire du rodéo sur un taureau en plastique qui tourne, là. Trump, il va adorer. Pendant ce temps-là, t'as Agnès Pannier-Runacher en mini-short qui amène de la bière et des nachos. Sébastien Lecornu qui tire avec J.D. Vance au 357 Magnum dans des boîtes de conserve, très trumpiste. Et on finit la fête avec un blind test franchouillard et festif animé par Emmanuel Macron. Je le proposais hier, ça, ce serait super de le faire. Il faut le faire.
Oui.
Allez, premier extrait. Qui a chanté ça, Donald ?
Puissance 4.
Bravo, c'est pas si facile que ça. Deuxième extrait. Pas simple, hein.
La bande
à Basile, voilà. Bravo, ah, oui. Apolline. Allez, next one. Patrick Sébastien, voilà, qui voulait se présenter en 2027. Et ben, je pense qu'on n'aura pas mieux pour plaire à Trump. Il faut faire ça.
Ça va être une bien belle soirée,
très belle soirée à Versailles.
À Versailles.
Gros bisous.
À Versailles ce soir. C'était donc Arnaud Demanche en direct avec nous, évidemment.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie. Aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h21. Dans un instant, mon invité, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h23.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Quentin Vinet.
La moitié de la France en vigilance jaune pour la chaleur ce matin. Et ça ne fait que commencer puisqu'on se dirige vers le deuxième épisode de canicule de l'année. 3 semaines après le premier et avant même le début de l'été, un dimanche, jour de la fête de la musique avec des pics à 40 degrés attendus. On n'en est pas encore là, mais les températures pour cet après-midi, jusqu'à 36 quand même dans le sud-est. Il fera 34 à Toulouse et Lyon, 33 à Bordeaux, 31 à Paris, 26 à Nice, 25 à Marseille. Et on est sur le point d'entamer une série de nuits sans redescendre sous la barre des 20 degrés. degrés. Il y a déjà tout un tas de conséquences. La SNCF, par exemple, supprime une vingtaine de trains demain et vendredi sur ces lignes Paris-Clermont, Paris-Toulouse, Porto-Marseille pour éviter les pannes. Et la ville de Paris autorise dès aujourd'hui la baignade dans le canal Saint-Martin, prévue en juillet. Cette avancée, donc, dans une zone délimitée et surveillée. La troisième et dernière journée du G7, c'est aujourd'hui à Évian. Il sera question de l'intelligence artificielle avant un dîner entre Emmanuel Macron et Donald Trump ce soir au château de Versailles. Le président américain repartira aux États-Unis dans la foulée. Dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient et des prévisions de croissance abaissées de moitié par la Banque de France pour 2026, et l'info de la nuit, c'est que des pétroliers iraniens ont franchi dans la nuit la zone du blocus américain, si on en croit un site de cartes maritimes. Je vous donne le tout dernier résultat à la Coupe du Monde de football. On vit ça sur RMC, la victoire de l'Autriche 3-1 contre la Jordanie. C'est le groupe de l'Argentine qui a battu l'Algérie 3-0 avec un triplé de Lionel Messi cette nuit. L'Argentin qui est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Des records sont tombés depuis hier soir, puisque vous savez que Kylian Mbappé lui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, détrônant Olivier Giroud avec 58 buts, doublés hier soir pour la France 3-1 lors de la victoire contre le Sénégal. Le milieu Adrien Rabiot s'est plaint de l'état de la pelouse hier au stade à New York. Ce matin, les Bleus sont de retour à leur QG de Boston, où les remplaçants d'hier soir vont jouer aujourd'hui un match amical contre une équipe locale sans enjeu, donc, mais c'est pour préparer le prochain match lundi prochain contre l'Irak, qui de son côté a été battu 4-1 un petit peu plus tôt dans la nuit face à la Norvège.
C'était le rappel des titres de Quentin Vinet. Dans un instant, mon invité, c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, troisième personnage de l'État. Elle répondra notamment à cette crise de confiance qui s'installe de plus en plus dans le pays, deux semaines après avoir retrouvé le corps de Liana. Yaël Braun-Pivet, mon invité sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Yaël Braun-Pivet.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale, troisième personnage de l'État, d'un État qui, beaucoup de questions ce matin, suscite parfois une forme de défiance, d'inquiétude, après notamment la mort de Liana. Lundi soir, encore des rassemblements devant les palais de justice. Et chaque jour, presque, on a de nouvelles plaintes, on a de nouvelles procédures qui n'ont pas forcément abouti. La dernière, et je voudrais vous faire réagir, c'est ce signalement qui avait été adressé par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, à la justice en mars dernier. C'est cette petite fille, déjà placée pour être protégée, mais qui s'est retrouvée face à Jérôme Barella, le père d'une de ses amies. Elle a signalé des gestes au minimum déplacés de Jérôme Barella. Elle s'en est plaint à l'une des animatrices de l'ASE qui a pris son témoignage au sérieux et qui a décidé d'alerter. Mais voilà, cette alerte n'est jamais arrivée. La procureure d'Auch indique, je cite, qu'elle n'a eu aucune trace de réception et d'enregistrement de ce signalement en mars dernier donc. Je l'ai appris dans la presse. Voilà ce qu'elle dit à BFM TV. Elle invoque un problème de boîte de réception. Elle a donc finalement fait des recherches dans ses mails, semble-t-il, et elle a fini par récupérer ce signalement début juin, qui était, semble-t-il, je sais pas, dans les messages sur le côté ou sur une mauvaise boîte. Mais comment c'est possible, un problème de signalement? Je sais plus quoi dire, en fait.
Moi non plus. Moi non plus, parce que on sait à quel point déjà il est difficile pour les enfants de parler parfois, de révéler des faits qui leur sont arrivés. Et donc, lorsque La parole de l'enfant est là, il faut absolument, impérativement s'en saisir, il ne faut rien laisser de côté. Et malheureusement, cette affaire illustre les manquements, les carences parfois dans le processus de plainte, de dénonciation, d'instruction de ces faits. Et donc, on voit bien que parfois, il y a des manquements au niveau de l'aide sociale à l'enfance, parfois il y a des manquements au niveau de l'école, parfois ce sont des manquements au niveau de nos forces de l'ordre. Parfois, ce sont des manquements au niveau de notre justice. Mais on voit bien que cette chaîne, elle ne marche pas bien aujourd'hui. C'est ce que ces affaires illustrent. On verra ce que dira l'enquête précise dans l'affaire Liana.
Lundi.
Mais en tout cas, on voit bien que ces défaillances, elles sont un petit peu systémiques. Et c'est ça qui nous révulse tous, quelle que soit la fonction, quelle que soit notre place dans la société.
Ce qui est navrant, et le mot est faible, désespérant, qui donne le vertige, c'est que j'ai l'impression que depuis deux semaines, à vous tous que j'ai face à moi, il y a ces plaintes qui n'ont pas été suivies de fait. Il y a cette mère de Rosa qui a appelé régulièrement sans obtenir de réponse. Il y a les preuves que les récits de Rosa avaient bien été corroborés par des médecins, des lésions sur son corps. Tout cela n'a donné aucune conséquence. Et puis, pardon, mais le côté dérisoire de mail, c'est-à-dire d'enfants qui parlent, de signalements qui sont faits, et on nous dit, c'est tombé dans mes spams. Enfin, on en est quasiment là.
Ouais, mais justement, je pense que c'est pour ça que aujourd'hui, comme hier, parce que c'est pas une loi de circonstance, on plaide pour cette fameuse loi intégrale. Ça n'est pas pour rien que les associations se sont mobilisées depuis des années pour cette loi. Cette loi, elle a été déposée par Céline Thiébaud-Martinez et plus d'une centaine de parlementaires en décembre 2025. Moi, j'ai rencontré les collectifs d'associations il y a un an, en mai 2025. Donc, ça fait des mois, des années que l'on est beaucoup à dire, il faut prendre le problème dans son entièreté parce qu'il y a des difficultés à chaque bout de la chaîne.
Alors,
on a fait beaucoup de choses.
Cette loi, elle est restée dans le tiroir.
Alors, elle est restée dans le tiroir parce que elle est un petit peu sortie du tiroir parce que avec le Premier ministre, chacun de notre côté, on a saisi le Conseil d'État qui est en ce moment en train de regarder son côté juridique pour s'assurer que les dispositions volent bien, comme on peut dire dans notre jargon. Donc, elle est sortie du tiroir. Il y a plus de 150 parlementaires qui l'ont signé à ce jour, c'est un quart de l'Assemblée nationale. Ça n'est pas rien. Mais on a en fait eu depuis des années une approche en fait en silo et par petits bouts. Donc on a fait plein de choses. Il faut pas dire qu'on a rien fait. Il y a eu le Grenelle des violences conjugales. On a formé près de 200 000 forces de l'ordre à la réception de la parole. Il y a des maisons des familles dans tous les départements de France de protection des familles pour recueillir correctement la preuve avec des protocoles adapté qu'on appelle le protocole Mélanie. J'en ai inauguré une encore récemment dans mon département. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Mais ce que l'on voit, c'est quoi ? C'est que, justement, ça n'est pas systématisé. Donc, il y a encore des trous. Et il y a des problèmes de passage de chaîne. Et c'est exactement ce que vous décrivez. Donc, on regardera ce que l'enquête dira. Mais on voit bien que, parfois, l'information ne circule pas. Que, parfois, la personne qui réceptionne la plainte a la bonne attitude, parfois ne l'a pas. Et donc, il faut absolument faire en sorte que chaque victime, que chaque parole soit entendue, justement, et que la bonne procédure soit faite. Et c'est pour ça, ça aussi, c'est prévu dans la loi intégrale. Il y a un article qui dit, quand vous recevez une plainte d'un enfant ou d'une femme, voilà les actes d'enquête que vous devez faire. Impérativement. C'est ce qu'on voudrait avoir pour justement avoir un traitement égal sur tout le territoire et ne plus rien laisser passer.
Encore faut-il que la plainte n'arrive pas dans les spams. Enfin, pardon, je reviens là-dessus, mais ça me paraît tellement...
Mais c'est pour ça qu'il faut prévoir un chemin, après, entre de transmission correcte, entre les forces de l'ordre, le procureur, qu'il y ait une enquête, et que tout cela, c'est l'objectif, en fait. Toujours dans la loi intégrale, nous prévoyons des pôles spécialisés. Aujourd'hui, ils existent, mais ils ne sont pas suffisamment renforcés, donc il faut vraiment qu'on ait partout sur le territoire national, dans chaque département, des pôles judiciaires spécialisés, des enquêteurs spécialisés, et qu'à chaque fois, chaque victime soit immédiatement orientée vers ces pôles spécialisés. C'est indispensable pour ne plus avoir ce type de faits qui sont gravissimes parce que ils peuvent avoir des conséquences absolument abominable.
Abominable et dramatique, cette fameuse loi intégrale, si désormais elle suit en effet le processus, si elle est validée par le Conseil d'État, est-ce qu'elle pourrait être votée avant la fin du quinquennat ?
C'est l'agenda qu'on pourrait avoir. Moi, j'ai échangé encore hier après-midi avec le Premier ministre et avec Céline Thiébaud-Martinez, la première auteure de cette loi. L'objectif, c'est effectivement d'avancer rapidement. Et donc, c'est pour ça que nous demandons l'inscription de cette loi en septembre à l'agenda de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre nous parle de l'automne. Moi, l'important, c'est qu'effectivement, à la fin du quinquennat, nous ayons pu avancer résolument sur cette situation, parce que c'est 160 000 enfants par an, et c'est des femmes qui, tous les jours, subissent les coups de leur mari, et qui dont la parole n'est pas suffisamment prise en compte.
Comment vous vivez, vous, cette période ? Vous avez entendu sans doute l'une des députées qui disait qu'elle avait honte aujourd'hui. Mmh. Laure Miller, elle dit « j'ai honte d'être députée française ». Comment vous entendez ça ?
Alors, moi, je pense que le Parlement a joué son rôle. Et donc, il ne faut pas avoir honte. Au contraire, il faut être fier de ce que l'on a fait. Vous savez, à l'Assemblée nationale, on a eu une commission d'enquête sur l'ASE d'Isabelle Santiago. Nous avons eu des commissions d'enquête sur les violences sexuelles dans le sport, dans le milieu du cinéma. Nous avons actuellement une commission d'enquête sur l'inceste, qui rendra ses conclusions le 7 juillet. Nous avons été à l'initiative de plusieurs lois importantes, transpartisanes, l'aide d'urgence pour permettre aux femmes de quitter leur domicile, l'ordonnance de protection. Ce sont des initiatives parlementaires qui, à chaque fois, ont été votées à l'unanimité de notre hémicycle. Donc moi, je suis plutôt fière de cette Assemblée nationale qui s'est saisie justement des sujets. Nous avons créé, sur ma proposition, en septembre 2022, une délégation aux droits des enfants, présidée par Perrine Goulet, qui, justement, était chargée et est chargée de mettre en lumière la parole des enfants à l'Assemblée nationale. Donc moi, je crois que l'Assemblée nationale a été à la hauteur. Mais, effectivement, il faut aller beaucoup plus loin.
Quand on
parle de loi intégrale, c'est une proposition de loi. Nous ne parlons pas d'un projet de loi.
J'ai l'impression parfois que tout ça est assez théorique, c'est-à-dire je comprends bien. De votre côté initié un certain nombre de choses, et quand j'écoute chacun, il a le sentiment quand même d'avoir fait le plus possible. Et puis ensuite, il y a des histoires de signalement qui n'arrivent pas. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression, d'un décalage entre un certain nombre de principes, de décisions, et le mur du réel, quoi, qui n'est pas
franchi. En fait, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'humilité. Je suis pas en train de vous raconter que tout va bien. Vraiment pas. C'est pas du tout mon intention, parce que je sais que tout ne va pas bien, et je vous l'ai dit en début de cette émission. Mais je voulais vous dire, on a fait beaucoup, mais ça n'est pas suffisant. Clairement, il faut être pragmatique. Il faut regarder la situation telle qu'elle est. Et telle qu'elle est, ça ne convient pas, ça ne va pas. Et donc, il faut aller plus loin, loi intégrale, davantage de budget, peut-être aussi une prise de conscience de la société tout entière qui n'était pas complètement là. Moi, en 2022, j'appelle à un MeToo de l'enfance, j'appelle à cette prise de conscience de la société. Eh bien, elle est peut-être en train d'arriver aujourd'hui. C'est heureux, il faut se saisir de cet électrochoc national qui nous a tous saisis. Faisons-en quelque chose d'utile, protégeons mieux nos enfants, protégeons mieux les femmes de ce pays.
Faudra-t-il des sanctions ? Gérald Darmanin a écrit aux différents magistrats de France hier. Il dit « lorsque des fautes professionnelles sont établies par les rapports d'inspection ou les enquêtes administratives, personne ne comprendrait qu'elles ne soient pas sanctionnées ».
Mais il a raison, la responsabilité est inhérente avec les régimes disciplinaires.
C'est rarissime qu'il y ait des sanctions contre des magistrats.
Alors, c'est pas très fréquent, vous avez raison. On a réformé le régime. Il y en a quand même un certain nombre. Mais effectivement, quand on est en responsabilité, la responsabilité, ça veut dire effectivement que lorsque l'on commet des fautes, eh bien, elles doivent être regardées et éventuellement sanctionnées. Mais ça sera l'objet du rapport et des suites qu'il y aura éventuellement à ce rapport. Je ne veux pas préjuger. Moi, je n'ai absolument aucune connaissance de l'inspection qui est en cours.
Et l'inspection administrative dont le compte-rendu devrait avoir lieu lundi. Une loi a été adoptée hier, dite loi Philippine. Là aussi, un drame qui avait traversé la société française de cette jeune fille violée, tuée par un homme déjà condamné sous OQTF, mais pour des raisons là encore administratives, de délais, de demandes qui n'avaient pas été faites à temps, bien, ils s'étaient retrouvés en liberté dans la nature. Charles Rodouel a porté cette loi. L'idée, c'est de rallonger la durée de rétention pour les étrangers en situation irrégulière qui auraient été condamnés pour des faits particulièrement dangereux. Est-ce que vous satisfaisez
Je m'en satisfais, bien sûr. C'est important qu'effectivement on ait pu rallonger les délais et permettre de retenir effectivement ces personnes. Et vous voyez, là aussi, initiative parlementaire, un député qui s'est saisi de cette affaire et qui a été au bout avec l'assentiment évidemment du gouvernement. Mais vous voyez, le Parlement, c'est ça l'intérêt d'avoir un Parlement divers. Ce sont des parlementaires qui sont sur le terrain, qui sont à l'écoute de la société et qui portent des initiatives qui permettent d'avancer. Mais vous voyez que c'est par petites touches et parfois, et on le comprend, ça ne va pas assez vite sur un certain nombre de domaines.
Cette question d'ailleurs, dans le cadre de l'élection qui vient, d'une sorte de, j'allais dire, de centre élargi, puisque vous aimez à dire qu'il faut travailler les uns avec les autres. Vous dites pourtant que vous ne voulez soutenir personne à ce stade. Vous n'avez été ni au meeting de Gabriel Attal, vous n'irez pas non plus à celui d'Edouard Philippe. Pourquoi ? À un moment, il va falloir se lancer, non ?
À un moment, mais ça n'est pas le moment. Aujourd'hui, vous voyez, on a parlé de sujets extrêmement importants. Et moi, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, en tant que députée, mais aussi en tant que maman, je consacre l'intégralité de mon énergie à essayer de résoudre ces questions.
Eux, c'est tout pour ma gueule.
J'ai pas dit ça.
Si j'étais candidate, alors on se dirait que je fais partie de ce club des CTMG. C'est tout pour ma gueule.
Alors moi, je crois pas que j'ai dit ça, mais peu importe en fait. Aujourd'hui, on a des candidats qui déroulent des programmes, chacun est dans sa ligne de nage en fait. Et moi, j'ai le sentiment, en tout cas, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je veux faire, c'est qu'il faut travailler et faire du collectif. À nouveau après, aujourd'hui, on est en juin. Moi, j'ai des dossiers qui sont sur la table de l'Assemblée nationale et j'essaye de les faire avancer au maximum.
Mais est-ce que ça vous a aussi traversé l'esprit ? Est-ce que vous vous êtes dit, et d'ailleurs vous dites souvent, ça manque de femmes. Est-ce que vous vous êtes dit, j'y vais ?
Mais je me suis pas dit à ce jour, ok, j'y vais. Mais c'est quelque chose que je regarde et évidemment, je n'exclus jamais rien. Mais je n'ai jamais rien exclu dans ma vie, donc je n'ai pas commencé à le faire. Mais je pense fondamentalement qu'aujourd'hui, ça n'est pas mon sujet parce que j'ai trop à faire à l'Assemblée nationale.
Dimanche, c'est la fête de la musique. Place de la République à Paris, ce sera une fête de la musique, mais LFI qui organise Place de la Musique, concerts et prises de parole militantes. Est-ce que vous avez vu cette histoire ? Est-ce que vous trouvez que c'est normal ?
J'ai pas vu, mais faut pas politiser la fête de la musique. La fête de la musique, c'est une fête qui appartient à tous les Français. C'est un moment de joie, de fête collective, de partage. Il y aura d'ailleurs une fête de la musique à l'Assemblée nationale aussi. On ouvre nos portes.
Elle sera pas politique. Vous n'alternerez pas concerts et prises de parole militantes.
Alors non, moi je fais pas de prise de parole à l'Assemblée nationale lors de la fête de la musique.
Donc c'est pas le lieu.
C'est pas le lieu, mais c'est pas le jour surtout. Laissons les Français justement se réunir et fêter quelque chose ensemble, quelles que soient les opinions politiques.
Franchement, mettre la politique de côté.
La musique, ça doit nous rassembler et ça doit pas nous segmenter.
Il y a une autre fête, c'est la fête à Versailles ce soir, les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Dîner à Versailles, est-ce que vous y serez d'ailleurs ?
Non, j'y suis pas. Non. C'est un dîner, je pense, restreint de travail.
Restreint de travail. Est-ce que c'était le lieu ? Est-ce qu'il fallait dérouler en quelque sorte le tapis rouge à Donald Trump dans le contexte actuel.
C'est le lieu, il faut se parler aujourd'hui. Versailles, c'est le symbole de la France, de la grandeur de la France. Ça a été conçu pour ça d'ailleurs quand ça a été construit. Donc moi, je n'y vois aucune difficulté. Et quand on va aux États-Unis, et quand moi j'ai visité le Congrès récemment, je me suis entretenue avec Mike Johnson, on voit l'attachement des États-Unis à la France, à Lafayette, etc. Donc il n'y a
Du président gêne actuel, le lien avec les États-Unis, il doit rester très fort.
Évidemment, il est très puissant, il s'est inscrit dans le temps et vous savez, tout cela dépasse l'amitié entre des nations, dépasse largement les dirigeants qui sont aujourd'hui au pouvoir. On le voit avec les États-Unis, on peut le voir avec d'autres exemples.
Est-ce qu'on peut réussir à convaincre les Américains, en ayant présidé le G7 haïtien qui se poursuit encore aujourd'hui, avec ce dîner à Versailles, de ne pas en rajouter quand on voit à nouveau l'idée d'une taxe 100% sur nos vins et spiritueux? spiritueux. Quand on voit la manière dont il a coupé l'accès aux moteurs de recherche les plus puissants de l'intelligence artificielle, quels sont nos moyens à nous?
Alors, je ne sais pas si on est capable de les convaincre, mais en tout cas, pour convaincre quelqu'un, il faut discuter avec. Donc, si vous ne discutez pas, vous êtes sûr que vous ne le convaincrez jamais. Donc, toujours discuter, toujours échanger, faire valoir nos arguments, agir en européen, pas uniquement en franco-français, c'est important. Donc, moi, je pense que vraiment la clé, c'est l'Europe, parler d'une voix unie face aux États-Unis et faire émerger enfin une vraie puissance européenne qui nous permettrait de desserrer l'étau entre les États-Unis
et
la Chine.
Alors, vous n'avez pas dit, c'est tout pour ma gueule, pardonnez-moi, c'est François Bayrou qui l'a dit. En revanche, il y a des insultes qui ont fusé et qui n'ont pas été niées par celui qui les aurait proférées. Nabo, je vais te faire disparaître en t'envoyant des Géorgiens. C'est Philippe Tabarot, le ministre des Transports, qui, dans le cadre aussi, visiblement, d'une concurrence locale sur fond de sénatorial, aurait envoyé ça au maire de Nice, Éric Ciotti. Vous trouvez que c'est digne d'un ministre, ça?
Écoutez, je pense que Éric Ciotti a porté plainte, je crois, et il s'en est plaint au Premier ministre, donc on va les laisser régler cette affaire. Mais en tout cas, d'une façon générale, on peut pas avoir un débat politique qui se place de cette façon.
C'est pas digne. Merci beaucoup, en tout cas, Yael Brune-Pivet, d'avoir répondu à mes questions. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale. Il est 8h47 sur RMC BFM TV.
Merci Apolline. La tarification de l'eau en période de sécheresse, c'est à suivre dans le choix de la rédaction. Et puis si je vous dis Mbappé, Messi, Zidane sont dans le même bateau, c'est la chronique de Virginie Fulpin à suivre.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h51 sur RMC, les dernières infos sur la Coupe du Monde, c'est avec vous Virginie Fulpin, bonjour Virginie.
Bonjour tout le monde.
C'est dans un instant, premier match des Bleus, pour l'instant un match, une victoire, on est content. Mais avant cela, le choix de la rédaction avec vous Anna Jojard, bonjour Anna.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Correspondante RMC dans le Sud-Est, une vague de chaleur s'installe sur le pays, on en parle depuis ce matin sur RMC, plus d'une trentaine de départements sont déjà placés en vigilance ou en alerte sécheresse. Et donc forcément, il faut déjà réfléchir à réduire notre consommation d'eau. Vous vous êtes intéressée, Anna, à ces communes qui font le choix d'augmenter les tarifs de l'eau l'été?
Oui, et une des dernières communes à passer le cap, c'est Villeneuve-Loubet, dans les Alpes-Maritimes. Une commune balnéaire très touristique, traversée par un cours d'eau, le Loup. Dans le passé, elle a déjà été concernée par des restrictions d'eau. Cette année, la municipalité veut donc anticiper et réduire déjà les usages excessifs. Depuis le début du mois jusqu'à la fin de l'été, l'eau est plus chère, entre 40 et 63% en fonction de la quantité consommée. Le reste de l'année, le prix baissera de 45%, ce qui permet d'équilibrer la facture à la fin de l'année. Lionel Lucas est le maire de la commune.
Dès le mois de mai jusqu'au mois de septembre, nous doublons, triplons notre population et donc automatiquement notre consommation d'eau. Pendant toute la période hivernale, automnale, voire le printemps, on est à 6000 m3 d'eau par jour de consommation. Et là, actuellement, au moment où je vous passe, on est déjà passé à 10 000 m3. On veut une responsabilisation. Pour nous, il n'y a malheureusement que le prix de l'eau qui fait réfléchir. Sinon, ça n'a pas d'incidence.
Et je le précise, hein, les agriculteurs de Villeneuve-Loubet ne sont pas concernés par cette hausse. Pour eux, le tarif reste fixe.
Alors, du côté des habitants, Anna, on en pense quoi?
Eh bien, tous ceux que j'ai rencontrés sont évidemment conscients, hein, qu'il faut préserver cette ressource en eau. En revanche, et vous allez l'entendre, le principe de toucher au portefeuille, lui, divise sur son efficacité.
C'est normal, il n'y a plus d'eau. Allez voir le Loup, il n'y a plus rien dedans. Il faut faire des économies.
Si ça oblige les gens à faire attention à leur consommation, c'est pas plus mal.
C'est pas le fait de payer davantage qui me fera changer mes habitudes, parce qu'elles sont déjà bonnes. Si on augmente trop, ça sera punitif, mais ça n'apportera pas grand-chose. Nous, on souhaitait surtout voir améliorer la déperdition de ces eaux qui partent dans les égouts et qui ne sont jamais réutilisées.
Et cette tarification saisonnière, elle est déjà mise en place dans d'autres communes?
Oui, que ce soit des communes bretonnes ou dans le sud-ouest, je pense à Toulouse par exemple, et je suis aussi allée à Grasse, toujours dans les Alpes-Maritimes, où la tarification saisonnière est mise en place depuis 3 ans déjà. J'y ai rencontré Nathalie, une habitante des environs, qui sait que l'une des principales dépenses en eau l'été, eh bien, c'est le jardin, et elle s'est donc adaptée pour avoir des réserves d'eau, même en cas de sécheresse.
L'eau de cuisson, on la garde qu'elle refroidisse pour arroser les plantes, déjà. Après, on a des récupérateurs d'eau de pluie pour le jardin. Et on utilise beaucoup de plantes qui demandent très peu d'eau. On a adapté aussi notre potager. Au départ, ça a été économique peut-être, mais maintenant, je remarque aussi écologique aussi.
Et après 3 étés avec cette tarification saisonnière, le maire de Grasse, Jérôme Viau, dresse un premier bilan.
C'est moins 11% de consommation pendant la période estivale sur les années 2023 et 2024. Et donc, on voudrait réitérer ce processus qui permet de consommer moins dans les périodes les plus complexes, quand la ressource est très sollicitée, quand il y a de moins en moins d'eau.
Et vous l'avez entendu, moins 11% pour les étés 2023 et 2024, un chiffre qu'il faut toutefois nuancer, puisque l'été dernier, où il n'y a pas eu beaucoup de pluie, la commune a constaté une légère reprise dans la consommation d'eau, notamment pour tout ce qui est de l'ordre de l'arrosage.
Merci Anna Jojard, correspondante RMC dans le Sud-Est.
RMC, le mondial de Virginie.
Le jingle du mondial de Virginie, vous l'avez reconnu, c'est le mondial de la gagne. Vous êtes avec nous Virginie. Lionel Messi entre un peu plus dans la légende du football, on commence par lui, et dans la légende de la Coupe du Monde.
Ouais, c'est un livre des records à lui tout seul. Cette nuit, l'Argentine a battu l'Algérie 3-0, un triplé de Lionel Messi. Il en est à 16 buts en Coupe du Monde, ça veut dire qu'il rejoint l'Allemand Miroslav Klose comme meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. Son premier but, c'était au Mondial 2006, il avait 18 ans, aujourd'hui il en a 38. Il est aussi devenu ce matin le premier joueur à disputer 6 Coupes du Monde. Il sera rejoint ce soir par son rival de toujours, Cristiano Ronaldo. Alors, 16 buts en 6 Coupes du Monde, c'est impressionnant. Mais moi, personnellement, je connais quelqu'un qui en est à 14 en 3 Coupes du Monde.
Je crois qu'on parle de Kylian Mbappé.
Oui, le capitaine de l'équipe de France, grand artisan de la victoire des Bleus 3-1 contre le Sénégal hier soir. Auteur d'un doublé en deuxième période, il a forcément dans la tête ce record de 16 buts de Klose et Messi, donc. Mais il a déjà établi un record hier soir en dépassant Olivier Giroud comme meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 58 buts déjà à 27 ans. Je ne sais pas s'il va célébrer tous ses buts comme le premier hier en jouant de la flûte traversière, enfin de l'air flûte traversière. C'est ce qu'il avait promis à un journaliste d'une chaîne américaine qui lui parlait de son apprentissage de la musique quand il était petit. Il ne faut jamais lancer de défi à Kylian Mbappé parce que même pour ça, il veut gagner.
Mais moi, tant qu'il met des doublés, il célèbre comme il veut. Les Bleus qui sont pleins de la qualité de la pelouse.
Ouais, on a la preuve qu'un jardinier américain, c'est pas exactement un jardinier anglais. Qu'est-ce que c'était que cette pelouse sèche? Adrien Rabiot a peu goûté la sensation sous les crampons.
Sur cette pelouse, je sais même pas si on peut appeler ça comme ça. Ça ressemble plus à un synthé assez dur, assez rigide.
Alors on verra si l'herbe est plus verte ailleurs. Le deuxième match des Bleus, c'est lundi, c'est à Philadelphie. Je vous dis tout de suite que le lendemain, ce sera pas simple. Le réveil, c'est à 23h, France-Irak.
Alors on sait qu'hier soir, Zinedine Zidane n'a pas vu le match des Bleus.
La famille d'abord. Zinedine Zidane a beaucoup de qualités, mais pas le don d'ubiquité. Être à New York et à Kansas City quasiment en même temps, c'est pas possible. Alors il est allé voir son fils Lucas dans les buts de l'Algérie pour ses grands débuts en Coupe du Monde face à l'Argentine. Il a donc fait connaissance avec Lionel Messi. Mais papa était là pour le réconforter. C'est logique, c'est sûrement mieux même pour Didier Deschamps, pas très agréable d'avoir son successeur en tribune qui juge un peu tout ce qui se fait.
le Ghanéen Thomas Partey n'a pas le droit d'entrer sur le sol canadien.
Ouais, la justice canadienne ne veut pas le voir là. Thomas Partey est accusé de viol, il sera jugé l'an prochain au Royaume-Uni. 4 femmes ont porté plainte, alors lui conteste les faits. Le gouvernement ghanéen a contesté la décision des autorités canadiennes, mais le refus d'entrer est confirmé. On le verra pas sur le terrain demain à Toronto pour le match entre le Ghana et le Panama.
Les supporters anglais sont prêts pour l'entrée de leur équipe dans la compétition.
Ils sont toujours prêts, les supporters anglais.
Les supporters, oui.
Cette nuit, ils étaient réunis dans un pub londonien de Dallas. Et ce soir, pour Angleterre-Croatie, ils seront 15 000 quand même dans le stade à Dallas.
Ils sont toujours prêts, les supporters anglais. On verra ce qu'il y a de l'équipe.
Oui, mais ça, c'est autre chose.
Merci Virginie.
Ça fait depuis 66 qu'ils ne sont pas prêts.
Belle affiche sur RMC à 22h, Angleterre-Croatie, la suite de la compétition à suivre sur la radio officielle de la Coupe du Monde. Toutes les infos tout au long de la journée et jusqu'à 5h du matin. Enfin, tout le temps, en direct aussi, avec la radio digitale sur l'application RMC. Dans un instant, les GG. Alain Marchal, bonjour. Quel est le programme?
Et on a toujours un record qui tient, celui du plus grand nombre de buts en Coupe du Monde. C'est toujours Juste Fontaine.
Toujours sur une Coupe du Monde.
C'est depuis 1958, sur une seule Coupe du Monde.
Sur une seule Coupe du Monde.
Il n'est pas prêt de tomber, celui-là, de record, effectivement. Bah, on va quand même se satisfaire de ce que nous ont fait les Bleus. Ça nous fait du bien au moral, finalement. Ça nous met un peu de baume au cœur dans cette actualité qui est tellement lourde. Vous venez de discuter avec nous. On reparlera de la grosse chaleur qui arrive. On a des maires qui commencent à se demander s'ils ne vont pas annuler la fête de la musique. 40 degrés, les concerts, l'alcool, ça risque de faire beaucoup. On reparlera de Baliba Gayoko, le maire de Saint-Denis, qui estime qu'on peut siffler la Marseillaise, que c'est même un droit à la réplique populaire. Vous venez discuter de ça avec les GG, avec les grandes gueules. On sera avec la députée LFI Aurélie Trouvé.